Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Chez Pygmalion, c'est Franck Ferrand qui présente l'ouvrage de Nicolas Coq, La science au secours de l'histoire. Bonjour Franck.
Bonjour Céline, bonjour à tous. 5 énigmes résolues par la science nous sont racontées dans ce volume. Et l'auteur Nicolas Coq est avec nous dans ce studio, aux côtés de Monsieur Science d'Europe 1, le cher Alain Sirou. On n'a vraiment pas de cœur parce qu'Alain est sur le pont depuis au moins 48 heures avec cette histoire de Philae qui n'arrête pas de faire des bonds sur la comète, si je puis dire. Eh bien, il a trouvé un peu de temps pour venir nous parler de science au service de l'histoire. À mon avis, on va se régaler.
Et puis à la fin de l'émission, vous répondrez à la question de Nicolas sur l'origine des couronnes que portent les souverains.
Couronne ouverte, couronne fermée. Pour le moment, ce sont des couronnes de laurier que nous allons tresser aux savants et aux chercheurs qui permettent de faire progresser l'histoire.
Europe 1. Au cœur de l'histoire. Franck Ferrand.
Nous sommes le 19 septembre 1991 dans les Alpes du Sud Tyrol. Il fait très beau. Imaginez la neige étincelante, bref, un temps tout à fait propice à la randonnée. Et c'est justement de la randonnée que font Helmut et Erika Simon, un couple, je devrais dire Simone, un couple allemand. Ils sont des gens qui ont une cinquantaine d'années, vous savez, ils se préparent à gravir le col de Tizenjor, qui est situé vraiment tout près, on va dire à 100 mètres de la frontière entre l'Autriche et l'Italie. On est à 3210 mètres d'altitude, pour être tout à fait précis. Et puis là, tout à coup, derrière un bloc rocheux, faut les imaginer, ils marchent, évidemment, ils sont concentrés sur leur effort physique. D'un seul coup, le couple aperçoit une petite mare glacée. Il semble qu'il y ait même quelque chose qui dépasse. Alors les deux randonneurs font quelques pas dans la neige. Et là, il n'est plus permis d'avoir le moindre doute. Ce qu'ils viennent de repérer tout à fait par hasard, c'est la partie supérieure d'un corps humain. Pas tellement la bonne surprise quand on est en train de se faire une grande balade en montagne. Un corps décharné, comme momifié par la glace, et apparemment, il a l'air d'être là depuis un moment. Un bon moment, même. Erika et Helmut sont convaincus, dans un premier temps, d'avoir affaire à un alpiniste, un homme qui serait mort de froid. Ils se disent qu'il faut prévenir les autorités. Vous savez, c'est ce qu'on fait dans ce genre de circonstances. Seulement là, quelles autorités prévenir? Ça fait un moment qu'ils randonnent sur la frontière. Ils ne savent pas trop s'ils sont du côté italien ou du côté autrichien. En redescendant d'ailleurs, ils vont croiser des carabiniers italiens avec lesquels ils évoquent leur macabre découverte. Mais on ne peut pas dire que les carabiniers soient très réactifs. Ça ne les intéresse pas tellement, cette histoire. Et ce sont les Autrichiens qui, eux, en revanche, vont s'intéresser de très près à cette découverte. Et quelques jours plus tard, le 22 septembre, donc on est en 1991, je vous raconte une histoire pour une fois très récente. Le 22 septembre 91, donc, le corps est dégagé des glaces. On utilise dans un premier temps un marteau piqueur à compression, vous savez, et puis peu à peu, bien entendu, des instruments de plus en plus fins pour essayer de ne pas trop abîmer le corps. C'est quand même une opération compliquée, délicate. Et du reste, la momie va quand même être amputée d'une fesse et d'une cuisse pendant cette opération. Et le bras gauche est cassé. Alors, on essaie de manipuler ça, ces restes humains, avec le plus de précautions possible. C'est un hélicoptère, bien entendu, on est en montagne, un hélicoptère qui va emporter la momie. Et au moment de cette manœuvre, on ne fait pas tellement attention, pour tout vous dire, aux petits objets d'écorce, mais aussi de bois qui se trouvent là, tout près du corps. Et notamment, il y a là les vestiges d'un arc. Le corps est transféré à l'Institut de radiologie de l'hôpital universitaire d'Innsbruck pour études. Et à vrai dire, tout le monde pense évidemment qu'on est en présence du corps d'un alpiniste disparu. Après tout, c'était un prédécesseur de Helmut et Erika qui se trouvait là et qui a dû mourir d'une crise cardiaque probablement. Vous savez, il y a tellement de gens qui disparaissent en montagne et dont on ne retrouve souvent les restes que bien longtemps après. En l'occurrence, on était sans nouvelles d'un certain Carlo Capsoni, qui était un prof de musique et qui adorait les randonnées en montagne et l'alpinisme et qui avait disparu lui-même dans cette région en 1941. Et on se dit, ben, ça y est, on a dû le retrouver, ce pauvre Carlo, ça doit être lui. En revanche, on ne peut pas s'empêcher de remarquer que le corps porte des traces bleuâtres, ainsi qu'une entaille sur le crâne, notez bien ça, évidemment, parce que là, on ne peut que penser tout de suite au résultat d'un crime. Compte tenu de cette découverte, le procureur local ne peut pas faire autrement que déposer une plainte contre X. Entre-temps, la presse locale s'empare du sujet. Il ne doit pas y avoir tellement de sujets à traiter dans le coin, entre nous soit dit. Il devait être bien content d'avoir ça à raconter. Et puis, quand je dis la presse locale, bientôt la presse nationale autrichienne et puis la presse internationale. Les journalistes ne tardent pas à trouver un nom au bonhomme. On l'appelle Hibernatus dans un premier temps, ça, évidemment. Et puis, comme le glacier où ont été découverts ses restes se situe dans la vallée de Lötztam, eh bien, on va lui donner le nom d'Ötzi, tout simplement. Donc, d'où ce surnom germanophone. À Innsbruck, l'équipe médico-légale doit faire vite, car Ötzi commence à se dégrader. Il prend une inquiétante couleur noire, alors qu'il était presque de couleur naturelle quand on l'avait découvert. Il est placé dans une chambre à moins 6 degrés, avec un taux d'humidité de 98%, bref, autant dire dans les conditions du glacier. Et assez vite, on se dit que le corps est plus ancien que ce qu'on pensait, mais bien plus ancien. On fait donc venir un archéologue et l'archéologue va faire ses travaux. L'étude ne sera publiée qu'en 1996, mais il y a déjà des fuites assez tôt. Hein. Dès la fin de 1991, on commence à savoir à quoi s'en tenir. La datation au carbone 14 est absolument certaine. L'homme dont il est question n'est pas du tout un alpiniste du milieu du XXe siècle. Non. Il est là depuis, tenez-vous bien, 5300 avant Jésus-Christ.
Georges Delerue sur Europe 1, un extrait de la bande originale du film Hibernatus. Je vous rappelle, chers auditeurs, que vous pouvez réagir tout au long de l'émission, nous envoyer vos messages, vos questions également par mail sur europe1.fr, Twitter, celui de Franck Ferrand ou hashtag ACDH ou encore sur la page Facebook de l'émission. Dans un court instant sur Europe 1, nous revenons avec vous, Franck Ferrand, à la suite de votre récit sur la découverte de la momie Ötzi.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Retour avec vous, Franck Ferrand, dans la vallée de Lötzan, où a été découverte la momie Ötzi, dans le glacier même.
Voilà, Ötzi, c'est facile à dire.
Hein ? Ça va, oui.
Lötztam, un tout petit peu moins, évidemment. Alors, Ötzi a 5300 ans avant notre ère, c'est-à-dire qu'il a plus de 7000 ans, vous imaginez. On est donc en plein néolithique, dans cette période extrêmement passionnante de l'histoire de l'humanité, qui correspond à la sédentarisation, vous savez, des hommes, lorsque l'être humain commence à se convertir à la chasse et surtout à l'agriculture. On est à l'âge du bronze, ce que les spécialistes appellent le chalcolithique, l'âge du cuivre, très précisément. Tous les organes de la momie, lorsqu'on l'analyse de très près, tous les organes sont intacts. On a les intestins, les poumons, le foie, etc. Ce qui rend évidemment l'expertise beaucoup plus facile et surtout beaucoup plus intéressante. Alors, à quoi ressemble-t-il notre Ötzi ? D'abord, quand vous voyez les photos, parce que moi j'ai pas eu la chance de voir la momie en vrai, mais enfin quand on voit les photos, il est un peu tordu, hein, faut dire ce qu'il y a, il est un petit peu, évidemment, il a été un peu malmené par le temps et par les glaces, très probablement. Il mesure 1m60 environ. On pense qu'il avait 45 ans, ce qui pour l'époque devait être très âgé. 45 ans, aujourd'hui c'est tout jeune. Mais à l'époque c'était très âgé. Il pèse 43 kilos, semble-t-il. On peut même calculer sa pointure. Il chaussait du 38, figurez-vous. Alors, il faut imaginer qu'il c'est un petit bonhomme assez râblé, évidemment, avec les jambes très musclées. Il portait la barbe. Il avait les cheveux bruns, ondulés. Et il a également des incisives très écartées. Vous savez ce qu'on appelle aujourd'hui les dents du bonheur. Ça, évidemment, ça n'a pas tellement changé pendant les 7000 ans où il a été si bien conservé dans cet univers très froid. D'un point de vue vestimentaire, eh bien, on peut dire qu'il était chaudement habillé, ce qui ne nous surprend pas à propos d'un homme des montagnes. Il portait un pagne en peau de chèvre, maintenu par une ceinture en peau de veau. Il avait une cape en fibre végétale, toute une grande veste en cuir de chamois et de bouquetin, tout ça cousu ensemble, bien entendu, mais il était très habillé. Des jambières attachées à la ceinture par des espèces de jartelles. Et oui, on est donc en 5300 avant notre ère, je précise, pour ceux qui nous rejoindraient en route. Et il portait un bonnet en peau d'ours et des pantoufles fourrées. Bref, il était chaudement vêtu. Ce qui est beaucoup plus surprenant, c'est que Tsi a des tatouages. Il a des tatouages essentiellement dans le dos, sur les pieds, aux genoux également. Or, si vous regardez ces tatouages, ils correspondent à des points extrêmement proches des points méridiens de l'acupuncture chinoise d'aujourd'hui, ou d'un certain nombre d'ailleurs de médecines traditionnelles de contact. Ce qui laisse entendre qu'en fait, quand on regarde exactement les points qui ont été tatoués, ce sont ceux qu'on utilise pour les personnes qui souffrent d'arthrose. Donc on peut imaginer qu'à 45 ans, notre Ötzi est était totalement perclus d'arthrose et donc on essayait de le soigner contre ça. Ce qui veut dire que les tatouages qu'il porte étaient probablement en partie, en tout cas, des tatouages thérapeutiques. Il avait également, on sait tout, hein, c'est ça qui est terrible avec les autopsies évidemment, même à 7000 ans d'écart, il avait des parasites dans les intestins. On sait par ailleurs qu'il transportait des champignons séchés dans un sac qui ont été enfilés ensemble comme une sorte de collier. C'était des champignons à vertu médicinale qu'il était probablement en train de cueillir au moment de sa mort. Alors ça c'est très intéressant, on se dit c'était une espèce de panoramix de l'époque. On est en présence d'un herboriste ou d'un médecin ou d'un guérisseur ou quelqu'un de ce genre-là probablement, ce qui expliquerait par ailleurs les tatouages dont je vous parlais, etc. Et les champignons en question, on pense qu'ils avaient des vertus thérapeutiques spécifiques, notamment dans la destruction des parasites. Donc vous voyez, par rapport à ce dont il souffrait dans les intestins, tout ça est lié très probablement. Et puis, on constate que Ötzi a plusieurs côtes brisées du côté droit. Bref, disons-le, il est quand même en assez mauvais état. Alors, pour autant qu'on sache ce que nous disent les archéologues, c'est qu'on ne sait pas grand-chose sur cette période. Quand je dis pas grand-chose, quasiment rien. C'est d'autant plus intéressant, évidemment, de rencontrer un spécimen. On me dit qu'il était équipé comme un berger ou comme un chasseur. Il a un petit poignard en silex, à manche de bois à la ceinture, dans un fourreau en tissu d'ortie. Et puis, ce grand arc, quand je dis un grand arc en nif, hein, qui fait 1,82 m, avec, dans un carquois, 14 flèches. Vous ajoutez à ça un coutelas dans ce fourreau végétal. Il était en train, encore une fois, de cueillir, de couper hein, des champignons, tout simplement. Et puis, un objet tout à fait rare et qui montre qu'on n'a quand même pas affaire au premier venu, une petite hache à lame de cuivre. Ça devait être à peu près l'équivalent de l'iPhone 6 de l'époque. Vous voyez, ça veut dire qu'il était vraiment à la pointe du progrès. Il avait les moyens, ce monsieur, très probablement. Bon. Il possède également un filet pour attraper des oiseaux, semble-t-il, une hotte munie d'une armature formée d'une longue tige de noisetier, deux boîtes cylindriques en écorce de bouleau avec de quoi faire du feu, ainsi que des outils de silex. Donc il était suréquipé, il transportait un petit peu son atelier avec lui. L'expertise va aussi prouver qu'il s'est nourri très peu de temps avant de mourir. Et alors on sait ce qu'il a mangé au cours de ce dernier repas. C'est un repas qui était constitué essentiellement de céréales, mais dans la composition duquel entrait quand même du bouquetin, s'il vous plaît. On a aussi retrouvé des pollens de charme qui poussent sur le versant italien des Alpes, ce qui suppose qu'il ait mangé pendant la floraison du pollen et qu'il est mort, on va dire, fin avril, début mai. Bientôt, je vais être capable de vous dire quel jour et à quelle heure. C'est complètement extraordinaire quand même, vous voyez. Bon, c'est intéressant toutes ces déductions. Je trouve que c'est une enquête assez passionnante que celle de Tsi, finalement. Donc, nous avons affaire probablement à un berger blessé qui était d'un certain niveau, qui était assez cossu, si je puis dire, qui était en train de ramasser des champignons médicinaux, qui est mort de froid avant d'être pris dans le glacier qui devait assurer sa momification. Et c'est à ce moment-là que se réveillent les autorités italiennes. Parce que ce qui est assez étonnant, c'est que vous avez vu qu'au début, les Italiens ne se sont pas du tout souciés de cette momie. Et puis, ils finissent par se réveiller, si je puis dire. Il est grand temps, hein, de nombreux mois plus tard. Alors que, bien sûr, les Autrichiens ont fait la une de la presse internationale avec cette affaire depuis longtemps. Et les autorités italiennes rappellent à juste titre que la découverte du corps a été effectuée par Helmut et Erika, donc du côté italien de la frontière. Alors on laisse aux Autrichiens le temps de finir leurs travaux et le corps va quitter l'Institut médico-légal d'Innsbruck pour être remis aux autorités italiennes en janvier 1998. Et là, les Italiens, eux, se concentrent tout de suite sur ce qui passionne le plus les journalistes, disons-le, c'est d'essayer de comprendre de quoi exactement est mort Ötzi. Alors la momie arrive à Bolzano, donc dans le nord de l'Italie, tout près de la découverte, hein, bien entendu. Toutes les précautions ont été prises pour accueillir Ötzi, évidemment dans les meilleures conditions. Il faut dire que les autorités ont eu le temps, hein, parce que ça faisait des mois qu'elles réclamaient la remise de la momie. Une chambre froide a été installée au musée d'archéologie de la ville. Et en juin 2001, après de longs mois de travaux et d'expertise, après l'utilisation du rayon X, etc., on va y venir dans un instant avec mes invités, les scientifiques apportent des informations supplémentaires sur les circonstances de la mort de Ötzi et, disons-le tout de suite, il apparaît que Ötzi n'est pas mort du tout de sa belle mort, qu'il n'est pas mort de froid, qu'il n'a pas fait de chute, etc. Il a été tué, il est victime d'un crime et nous voilà en présence de la plus vieille histoire policière de l'humanité.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Retour avec vous, Franck Ferrand, à la découverte de la momie Ötzi et aux circonstances de sa mort.
Alors, vous avez bien compris qui est notre Ötzi. C'est une sorte de guérisseur. C'était peut-être un chaman, vous voyez, on est dans ce genre de personnalité-là. Il était habillé plus ou moins en berger ou en guerrier, très équipé, donc, en train de ramasser des champignons. Et voilà qu'on découvre, quand je dis on, ce sont les scientifiques italiens cette fois, qui remarquent qu'une pointe de flèche a traversé l'épaule gauche d'Ötzi. Une pointe de flèche qui est restée coincée près du poumon gauche et qui, alors là, évidemment, est la cause de la mort du bonhomme. Ça a dû provoquer une hémorragie très rapide. Vous imaginez là où est située la pointe de la flèche, il n'y a aucun doute sur la question. Or, on va découvrir également des traces de sang humain sur deux des pointes de flèche et sur le couteau de Ötzi. Alors on se dit, bon, bah, jusqu'ici ça paraît assez normal. Mais oui, mais les traces de sang en question n'appartiennent pas seulement à Ötzi lui-même, elles appartiennent à quatre personnes différentes. Alors là, ça devient de plus en plus précis notre histoire. On se dit que Ötzi a dû être attaqué, probablement donc par trois personnes, à moins qu'il n'ait été lui-même avec quelqu'un qui ait pu se sauver, ça on n'en sait rien. Toujours est-il qu'il a été attaqué. Et que c'est comme ça qu'il est mort. D'ailleurs, il a une blessure à la main et une fracture au poignet qui avait été remarquée, mais qui avait été attribuée à d'autres causes. Là, on pense qu'il y a bien eu combat, évidemment. Ötzi a dû être mêlé à une espèce de violente rixe au moins à quatre personnes. Il a été blessé. Il s'est peut-être enfui pour aller se réfugier en altitude. Ça pourrait expliquer pourquoi il est mort à 3200 mètres. La question est de savoir si, avec l'hémorragie qui était en train de s'emparer de ses poumons, il a eu le temps de monter jusque-là. Ça, c'est difficile à dire, évidemment. Son identité, ai-je besoin de vous le dire, reste un mystère, comme l'étrange malédiction qui aurait frappé, dit-on, un certain nombre des protagonistes ayant participé à la découverte de la momie. Alors j'ai eu l'occasion de traiter ce sujet à cette antenne même il y a quelques années. Je n'y crois pas, moi, cette malédiction. C'est vrai que c'est un peu étrange. Et évidemment, vous pouvez faire confiance à un certain nombre de journalistes de la presse à sensation pour s'emparer de cette histoire. Ils nous ont expliqué que sept personnes qui, de près ou de loin, pour certaines de loin, avaient été mêlées à la découverte et aux études sur Ötzi, ces sept personnes sont mortes. Alors ça fait penser, vous savez, à la malédiction de Toutankhamon au moment de la découverte du tombeau de Toutankhamon par Carter. On repart un peu sur la même histoire. Alors Helmut Simon, le touriste allemand, c'est vrai, est mort dans une randonnée dans la même région, mais enfin c'était en 2004 hein, quand même, c'est pas en 91. Dieter Warnecke, qui était un guide de haute montagne parti à la recherche d'Helmut, va mourir lui aussi de crise cardiaque, certes à 45 ans, mais en 2004 également. L'archéologue Konrad Spindler, premier archéologue à examiner la momie, est mort lui en 2005. Tom Loy, qui est un archéologue spécialiste de chimie moléculaire, qui avait travaillé aussi sur Tsi va mourir en 2005. Mais enfin bon, je m'en tiens là parce que vous voyez, il aurait fallu qu'elle prenne son temps, la momie, pour se venger. En l'occurrence, 5 à 6 bonnes années, ça me paraît pas très crédible, toute cette histoire. Ce qui est plus intéressant, bien entendu, ce sont toutes les nouvelles études qu'on ne cesse d'effectuer sur cette momie, sur ce corps naturellement momifié depuis 7000 ans, vous imaginez. Et à mesure que progresse la génétique, évidemment, les résultats qu'on obtient sont de plus en plus fins et de plus en plus intéressants. La plus récente communication a été faite en 2012 dans la revue Nature. Et elle affirme que Tsi était donc un brun aux yeux marrons. Jusqu'ici, on n'en avait pas la certitude. On avait juste les vestiges du bonhomme lui-même. Là, maintenant, la génétique nous l'apprend sans aucun doute. Il était de groupe sanguin O. Et semble-t-il, il avait un problème pour digérer le lactose. Et surtout, cet ADN de Tsi, et là ça devient vraiment très passionnant, cet ADN a été comparé avec l'ADN de 1300 Européens actuels. Et les chercheurs ont découvert que les populations qui aujourd'hui se rapprochent le plus de Tsi, qui lui ressemblent le plus sur un plan génétique, sont les populations qui vivent en Corse et en Sardaigne. Ça, c'est quand même intéressant quand on sait que bien longtemps la Corse et la Sardaigne ne constituaient du reste qu'une île, et quand on sait à quel point cette civilisation donne du fil à retordre aux archéologues et aux philologues, je trouve que ça n'est pas inintéressant. Ce qui est certain en tout cas, c'est que l'homme de glace, l'homme des glaces, le Hibernatus italo-autrichien n'a pas fini de dévoiler tous ses secrets, et que là où il repose, dans la chambre froide du musée archéologique de Bolzano, on peut dire qu'aujourd'hui encore, il nargue d'une certaine manière les chercheurs, ou, pour être plus positif, il les attend. Bonjour Nicolas Coq.
Bonjour.
On va revenir avec vous sur le cas de Tsi, bien entendu, et sur tous ces cas que la science a permis de résoudre. C'est bien de temps en temps que les historiens puissent reposer sur un certain nombre de scientifiques. Nous avons, vous savez qu'aucune émission n'est parfaite, et nous avons un scientifique avec nous cet après-midi, en la personne d'Alain Siroux.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Au cœur de l'histoire, vous continuez cet après-midi, Franck Ferrand, à nous parler de la momie Tsi et d'autres énigmes résolues par la science avec vos invités. Nicolas Coq, ancien archéologue et auteur de La science au secours de l'histoire, 5 énigmes résolues aux éditions Pygmalion dans la collection Franck Ferrand présente. Et Alain Siroux, notre consultant scientifique d'Europe 1, directeur de la rédaction du magazine Ciel et Espace.
Vous dites que Nicolas Coq est un ancien archéologue. Alors déjà, un archéologue, on a plus ou moins à juste titre l'image d'un vieux monsieur, mais un ancien archéologue, qu'est-ce que ça doit être? Vous avez quel âge, Nicolas Coq?
35
ans, voilà. Je précise quand même pour ceux qui ne nous verraient pas sur leur écran d'ordinateur. C'est Aurélien qui, via Twitter, nous dit: au lendemain de la passionnante journée autour de Philae et de la mission Rosetta, science et histoire continuent à nous passionner dans Au cœur de l'histoire. On peut dire grâce à vous, ça, Alain Siroux. C'est quand même fabuleux ce qu'on est en train de vivre là.
C'est fabuleux et on est au cœur de l'histoire, mon cher Franck, parce que ce sont des objets historiques. Et souvenez-vous, on en a parlé avec vous d'ailleurs pour raconter quelle peur inspirait ces astres chevelus quand ils apparaissaient dans l'histoire de l'humanité. On leur associait généralement des signes de malheur, épidémie, famine, guerre. On voyait l'âme des grands personnages de ce monde s'enfuir dans les cieux. Certains pensaient même que c'était des poutres enflammées que les dieux jetaient sur le soleil pour l'alimenter. Donc c'est une vraie enquête historique, et je dirais qu'un historien serait bienvenu chez les astronomes pour pouvoir apporter sa vision. Je crois que c'est extrêmement important de confronter les deux.
On a démontré pendant tout l'été dans nos rendez-vous avec Nicolas Carreau qu'on pouvait faire très bon ménage d'une certaine manière, et que c'est très passionnant de confronter le passé, le présent et le futur, avec tout ce qu'on peut savoir des trois. Évidemment.
Les liens sont tellement importants, et surtout pour éviter, je dirais, les antagonismes forts. Je pense qu'il y a des personnalités dans ces domaines scientifiques et historiques qui dressent les gens les uns contre les autres, très souvent pour des bonnes raisons, des idées. Vous savez, quand on tient à une idée, on veut vraiment la défendre. Donc il y a deux solutions dans ce cas-là. Soit on réussit à prouver aux autres qu'on a raison, soit on attend qu'ils meurent. Bon, la première solution est quand même la meilleure, en règle générale.
Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous intéresser comme ça aux affaires scientifiques de l'histoire, si je puis dire, Nicolas Coq?
Justement, tu as fait depuis plusieurs décennies que les sciences viennent de plus en plus grappiller un peu sur les domaines de l'historien. Et on s'aperçoit que les archéologues, les historiens sont obligés maintenant de travailler.
Vous avez vu à quel point, oui. C'est incroyable. Oui. C'est-à-dire qu'il n'y a quasiment plus aujourd'hui de grande énigme historique qui n'ait pas son volet scientifique. Oui. Et notamment génétique, bien entendu, puisque c'est le domaine où la science peut apporter pour l'instant le plus à l'histoire. On va y venir dans un instant. Alors, Ötzi, pour commencer. On a commencé par le dater, grâce à cette technique qui, alors, elle existe depuis longtemps. Depuis quand
ça va, depuis ça, juste, 60 juste après, ans hein, juste après la fin de la Deuxième Guerre mondiale.
Oui, c'est ça.
C'est les premières études de carbone 14 qui ont été faites. C'était sur Lascaux, donc, oui. Qui a été découverte en 1940. Donc,
oui, et qui commence à être exploité à partir de 47, donc c'est ça. Et là, grâce à cette utilisation donc de l'atome, on peut expliquer en deux mots comment on arrive à dater un objet au carbone 14, Alain Siroux?
Bah oui, c'est grâce à une propriété justement de ce fameux carbone qui est un radioactif en quelque sorte. Et bon, le carbone 14 est un isotope du carbone 12. Et en fait, vous avez une décroissance régulière. Je dirais, pour redonner une image, c'est une montre qui marche à l'envers, c'est-à-dire qu'elle vous donne une date et tous les 5730 ans, elle a une demi-vie, c'est-à-dire qu'elle perd la moitié. Donc en fait, si vous connaissez la composition de l'époque de l'atmosphère, vous avez un être vivant, un homme, des plantes, un arbre, etc. Eh bien, pendant sa vie, on consomme en quelque sorte du carbone en respirant l'atmosphère. Et puis quand on meurt, ça cesse. Si on retrouve, le morceau de bois, si on retrouve Ötzi, il suffit, entre guillemets, de compter le nombre de carbone, d'isotope carbone 14 dans l'échantillon pour remonter à la date où cet être vivant respirait.
C'est fiable, ça ? On est sûr du
c'est
résultat ?
C'est plutôt fiable, mais ça laisse quand même des marges d'erreur extrêmement importantes, parce que la demi-vie, ça reste quand même quelque chose qui est relativement large. Il n'y a pas que le carbone 14, bien sûr. Et puis surtout, ça dépend des conditions initiales, c'est-à-dire quelles étaient les conditions initiales de l'atmosphère en Autriche, par exemple, dans les Alpes, au moment où vivait Ötzi. C'est quelque chose de beaucoup plus délicat, parce que vous n'avez pas les mêmes conditions si vous êtes en montagne, au bord de la mer, en fonction des environnements locaux. Donc c'est pas une échelle absolue, c'est une échelle relative qui doit être confrontée à d'autres indices pour, je dirais, serrer un peu la date qu'on cherche à trouver.
Et là, on arrive au deuxième aspect. Après cette datation, il y a la question de l'observation. Ce que je trouve magnifique, c'est que lorsque les scientifiques italiens passe après, bien après les scientifiques autrichiens, ils trouvent le moyen encore, par le simple examen clinique, c'est-à-dire juste en observant, en touchant avec les yeux, si je puis dire, ils trouvent le moyen de découvrir des choses qui avaient sinon échappé, en tout cas qui étaient passées au deuxième plan chez les Autrichiens, Nicolas Koch. Ça, c'est étonnant quand même.
Oui, mais surtout ce qu'il y a... c'est surtout les analyses, le scanner qui a permis de révéler énormément de choses, ça a été fait rapidement, et puis ça a été refait en Italie, où il y a eu vraiment une séquence complète de scanner qui a été des pieds à la tête d'Ötzi. Oui. Et donc c'est vraiment à partir du scanner qu'on a vraiment appris le plus de choses sur son état de santé, et surtout la façon dont il était probablement mort, avec cette pointe de flèche qui avait lacéré une artère.
C'est grâce au scanner qu'on a trouvé la pointe de flèche, c'est ça qui est essentiel.
Oui, c'est le scanner, elle était bien visible, logée dans l'omoplate, juste derrière l'omoplate. Et elle avait lacéré une artère importante du corps, donc très vraisemblablement il est mort de ça, puisqu'il avait pu vivre peut-être 10 minutes après la blessure et
mais donc
pas
là,
plus.
Ça c'est très passionnant, parce que on voit que là la science apporte directement à la connaissance du sujet et du cas. Qui sont les gens qui ont travaillé? C'était des scientifiques ou c'était des historiens? De quoi se composait l'équipe scientifique?
Il y a eu des médecins, il y a eu beaucoup de chercheurs, il y a eu des paléogénéticiens, spécialistes de génétique qui ont travaillé. Ça a été des médecins, des spécialistes des momies aussi qui ont travaillé dessus, en partenariat avec des archéologues aussi. Puisque tous les objets qui ont été retrouvés ont été étudiés par les archéologues, notamment la fameuse hache de cuivre, qui laisserait penser que c'était quelqu'un d'assez important dans sa tribu,
oui, voilà,
peut-être un chef ou un chaman.
On avait affaire à une personnalité, oui, voilà. Le sage, peut-être le sage du village, d'une certaine
sans
manière.
Doute,
oui,
qui peut-être aurait été chassé de son village, obligé de s'enfuir, chassé peut-être par d'autres... il était obligé de s'enfuir, et c'est pour ça qu'on l'a retrouvé à 3000 mètres d'altitude.
Je vais juste faire une parenthèse et que je vais m'empresser de fermer aussi vite, mais c'est intéressant de constater, et ça pour l'instant en tout cas, tous les historiens sont absolument d'accord sur la question, que les traces de violence entre groupes humains n'apparaissent qu'au néolithique. C'est-à-dire que dans toute l'immense période paléolithique, à tous les âges de l'humanité, il n'y a pas de ces violences organisées et constatées. Elles interviennent à partir du moment, ça donne un peu raison à Rousseau a posteriori, c'est à partir du moment où il y a des propriétés privées, des territoires à protéger, à défendre, etc. C'est quand même intéressant. La naissance vient avec la propriété, en quelque sorte. En tout cas, la violence, pardon.
En tout cas, il n'y a pas de traces, peut-être aussi. Oui, on n'en trouve pas de traces.
Enfin, ce serait étrange que sur tous les très nombreux corps de nos ancêtres, alors du paléolithique, parfois même à des périodes très très reculées, on n'ait aucune de ces traces. Ce serait quand même étrange. Bref, je ferme donc très vite la parenthèse. Arrive la génétique là-dessus. Et ça nous apprend. Alors, ce qui est fascinant avec l'instrument génétique, si difficile soit-il à manier, c'est qu'il nous fait entrer quasiment, alors là, cette fois, dans l'être vivant, de plein pied dans son quotidien et dans sa réalité. Ça, c'est plus étonnant. Oui, parce qu'on le connaît de l'intérieur.
Oui, parce que les scientifiques ont été capables de dire d'où probablement il était originaire et de remarquer qu'effectivement, il était apparenté génétiquement avec les populations du sud de la Corse et de la Sardaigne. Donc c'est vraiment... il appartient à un fond génétique de populations qui sont venues du depuis le Proche et le Moyen-Orient avec le mouvement de la néolithisation qui a envahi l'Europe à partir de 10 000 ans avant notre ère, à peu près, progressivement. Et donc Ozzy avait un fond génétique qui se retrouve dans ces populations-là. Donc il est vraiment tout à fait... Là, donc, on en apprend. Et sur son état de santé, l'ADN aussi a permis de remarquer qu'il avait été prédisposé aux maladies cardiovasculaires, déjà à cette époque-là. Et entre autres...
C'est assez étonnant de voir qu'à mesure que la génétique progresse, on peut analyser des séquences de plus en plus importantes de l'ADN. Ça, c'est comment on pourrait appeler ça, l'archéogénétique, enfin la paléogénétique. Oui. C'est tout nouveau, ça. Enfin, ça date de moins d'une dizaine d'années.
Oui, une quinzaine d'années.
Une quinzaine d'années. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'effectivement, au fur et à mesure des expériences, les données se peaufinent. Bon, moi, c'est pas du tout ma spécialité, mais je vous ai lu avec beaucoup d'attention parce que vous racontez cette histoire extraordinaire, justement, de l'ADN mitochondrial qui permet, à travers la descente donc maternelle, de remonter à des informations. Et vous racontez comment, finalement, en suivant cette piste-là, plus la piste de l'ADN et de l'environnement de l'individu, on apprend des choses, mais qui sont du domaine de la police scientifique. C'est-à-dire que vous pouvez décrire pratiquement, presque à la minute près, entre guillemets, le meurtre de Ozzy. C'est-à-dire, il a été poursuivi par quelqu'un, il a pris un couteau dans le dos, ou en tout cas, une pointe de flèche. Enfin, je veux dire, on a l'impression de le vivre comme, les experts.
7000 ans plus tard, oui, c'est complètement fou.
7000 ans plus tard. Et ça fait référence aussi, parce qu'on a cette image-là, souvent en tête, à l'identification des mammouths qui sont en Sibérie, qu'on trouve dans des endroits totalement préservés dans la glace et qu'on sort, et à qui on va essayer de faire sortir.
Alors, faire dire
les choses. Et le rêve de certaines personnes, c'est de réveiller, entre guillemets, le mammouth, en tout cas d'être capable de fabriquer un mammouth à partir de cela. Et quand on vous lit, on a presque l'impression que finalement, notre Hibernatus, il pourrait se réveiller un jour.
Oui. Pourquoi pas d'ailleurs, mais enfin, il est quand même un petit peu amputé là maintenant, oui, il faut bien le dire. Oui, alors ça, là on parle d'une momie naturelle, mais il a existé bien entendu dans bien des civilisations de tout autre type de momies, des momies culturelles d'une certaine manière, qui sont faites après la mort par des spécialistes, hein, des embaumeurs. Le cas le plus connu qu'on ait, c'est celui de l'Égypte. Et justement, vous nous parlez de toutes les découvertes que le génie génétique a permis de faire sur notamment les momies de la 18e dynastie égyptienne dans ce livre, Nicolas Coq.
Oui, c'est une dynastie importante qui avec des pharaons que tout le monde connaît, Toutankhamon, Hatshepsout... et d'autres. Donc c'est une période de prospérité pour l'Égypte, parce que le début du nouvel empire, et donc l'Égypte conquiert au-delà de ses frontières. Donc c'est vraiment une période importante, et donc la plupart de beaucoup de momies de pharaons de cette époque ont été retrouvées dans la vallée d'Aroua, entre autres, et dans une cachette.
Ça, c'est très passionnant, parce que autant Ötzi est l'anonyme des anonymes, on sait rien sur lui, et c'est même pire que ça, on ne sait même rien de la civilisation à laquelle il appartient. Enfin, là, on est dans le grand néant. Alors que, bien entendu, on sait quasiment tout de la civilisation égyptienne classique, et notamment de cette 18e dynastie. Quand on est en présence de la momie de personnages historiques déjà connus, ça devient extrêmement intéressant, puisque ce que l'ADN nous apprend peut être immédiatement confronté à ce que les sources nous faisaient déjà savoir. Ça, c'est formidable.
C'est la route de la science, c'est
Qu'est-ce qu'on a découvert ces derniers temps d'ailleurs? Alors, qu'est-ce qu'on sait de plus sur Akhenaton, sur Nefertiti, sur sur Hatshepsut?
Oui, alors les difficultés à cette époque-là, c'est d'essayer de comprendre les liens de paternité et de filiation qui existent, parce qu'il y a souvent, surtout à cette époque-là, des mariages
consanguins et même incestueux, on peut dire,
incestueux, oui. Et donc la question qui tournait autour de Toutankhamon, c'était de savoir, par exemple, qui était sa mère. Ce son père, on était à peu près certain que c'était Akhenaton, mais sa mère, certains pensaient que c'était Nefertiti. D'autres n'étaient pas d'accord et la génétique a permis de comparer les ADN de momies avec celles de Toutankhamon et de découvrir la momie qui était la mère de Toutankhamon.
Eh oui, ben
maintenant, on n'a pas encore réussi à forcément mettre un nom sur cette momie parce que certains pensent que c'est Nefertiti, d'autres ne sont pas d'accord avec la lecture qui a été faite des tests ADN. C'est là aussi une des difficultés du mariage.
Ça c'est tout le problème.
La science et l'histoire, oui.
Alors bon, moi, c'est devenu une tarte à la crème, puisque je dis quasiment une fois par semaine à ce micro que je crois pas au test ADN. Attention, ce n'est pas le test lui-même que je mets en cause. Ce sont les circonstances dans lesquelles il est.
L'interprétation.
Oui.
Et c'est ce que vous montrez parfaitement dans votre livre, c'est qu'il y a le fait scientifique et il y a l'interprétation. Et je pense que le nœud, il est là. C'est-à-dire que, la science, par essence, elle se base sur quoi? Elle se base sur l'observation, mais aussi sur le doute. Ce qui définit une science, c'est son caractère de réfutabilité. Et je pense que ce n'est pas un argument d'autorité de dire nous avons observé ça, donc c'est ça. Parce
et
que
non,
ce que vous montrez, c'est
ça,
que c'est un contexte éminemment complexe, des interprétations, des visions du monde.
Tout à l'heure, Céline a précisé que ce livre était publié dans la collection que j'ai l'honneur de présider chez Pygmalion. Et si nous avons justement choisi votre livre, votre manuscrit, c'est pour cette raison-là. C'est que votre analyse est toujours très fine, très juste, très prudente. Vous avez, au-delà de la grande rigueur, évidemment, de l'auteur qui nous raconte comment se passent toutes ces recherches, vous avez cette intuition qui vous permet de ne pas tomber dans le panneau, si je puis dire. Et c'est devenu malheureusement tellement rare. Un certain nombre de nos confrères ont l'habitude de donner à la science peut-être un peu trop de place maintenant dans l'histoire. Il faut que la critique surnage à tout ça.
Surtout, il faut se poser les bonnes questions dès le départ. Quand on est face à une énigme, et puis se poser les bonnes questions dès le départ, ce qui permet ensuite, après, d'avoir une méthodologie scientifique. Si on part du principe, par exemple, pour la tête d'Henri IV, si on part du principe qu'on est persuadé que c'est la tête d'Henri IV, donc on va essayer de le prouver, on a une démarche inverse. Il faut partir de l'idée à qui appartient cette tête, et après essayer de prouver.
Exactement.
Et là, c'est ce qui s'est passé.
Ce qui fait que là, dans le cas d'Henri IV, d'ailleurs, vous restez pour le moins prudent, et je crois que vous avez totalement raison. La science au secours de l'histoire, c'est sous-titré 5 énigmes résolues. Pour l'instant, on a évoqué 3. Mmh. Il y a 2 grands personnages qui nous attendent. Mmh. Napoléon, que tout le monde connaît, et Néandertal, que certains aimeraient bien connaître.
Franck Ferrand, 14h, 15h, sur Europe 1.
Sur Europe 1 avec un extrait de la bande originale du film AO, Le Dernier Néandertal. Les énigmes résolues par la science sont au cœur de l'histoire cet après-midi. On va en parler d'ailleurs du dernier Néandertal. Avec vous, Franck Ferrand, Nicolas Coq, qui a été archéologue, auteur de La science au secours de l'histoire, 5 énigmes résolues aux éditions Pygmalion, dans la collection Franck Ferrand présente, et Alain Sirou, notre consultant scientifique d'Europe 1, directeur de la rédaction du magazine Ciel et Espace.
Alors, parlons de Néandertal, justement. C'est une grande question que nous avions posée à Marilène Patoumatis il y a quelque temps, dans une émission consacrée justement à Néandertal. Est-ce qu'elle nous expliquait, vous allez me dire Nicolas Coq si vous êtes d'accord avec cette vision-là, elle nous disait qu'en vérité, Néandertal n'a pas disparu du jour au lendemain, que c'est une lente déréliction, qu'on le voit peu à peu se dissoudre en quelque sorte dans le reste de l'humanité, ou dans l'humanité, puisque la question se pose, et c'est peut-être la première qu'il faut vous poser, est-ce que Néandertal est véritablement et génétiquement un homme ?
Oui, alors ce sont des Néandertal et Sapiens, ce sont des espèces qui sont génétiquement à 99,5 ou 6% identiques.
Donc, on est très proche du chimpanzé aussi.
Oui, à quelques pourcents près, mais Donc la question, c'était de savoir, est-ce que ce sont vraiment deux espèces distinctes, sapiens et néandertal, et se sont-ils reproduits, parce qu'on sait qu'ils se sont rencontrés nécessairement. L'ADN a permis de prouver qu'il y avait eu des hybridations entre néandertal et sapiens, ça c'est bien quelque chose d'assuré. Et même, pour aller plus loin, que nous conservons actuellement, chacun de nous, 3% de cet ADN hérité de néandertal.
Ce qui on a un peu de néandertal en nous.
Oui, voilà, ce qui remet totalement en perspective la vision des origines, qui a complètement chamboulé la vision qu'on avait des origines.
Donc ce n'est pas sapiens qui vient balayer néandertal, c'est néandertal qui peu à peu se dissout dans sapiens, si je puis dire. C'est plutôt comme ça que ça se passe et c'est très long en plus.
Oui, c'est très long. C'est la disparition, c'est à partir du moment où sapiens arrive en Europe vers 40 000 ans, c'est à partir de ce moment-là que néandertal va s'étioler et puis disparaître. Et ça va s'étaler jusqu'à moins 25 000 ans. Parce que les derniers néandertals qu'on connaît en Espagne sont datés de cette période-là. Donc c'est vraiment, pour néandertal, l'explication de Marie-Hélène Patoumatis à propos de la démographie de la plus évidente. Progressivement, peut-être qu'il a été chassé par sapiens de chez territoire. Il a été poussé, donc des petits groupes se sont formés et la démographie a fait que progressivement il s'est éteint tout simplement. Mais il a quand même réussi par l'hybridation, par la reproduction avec sapiens, à qu'une partie de son patrimoine génétique parvienne jusqu'à nous. C'est ça qui est tout à fait remarquable.
Une fois de plus, c'est bien la génétique qui est à l'œuvre. On dit la science au secours de l'histoire. Vous auriez presque pu appeler ça la génétique au secours de l'histoire. C'est la branche scientifique la plus exploitée par les historiens, évidemment.
Oui, depuis une quinzaine d'années, où ça ferait les techniques ont fait des bonds incroyables. On est capable d'extraire de l'ADN qui est aussi vieux que Néandertal, ce qui était encore impossible il y a 15 ans, et on est capable de dépolluer les séquences.
Comment est-ce qu'on peut faire ça, Alain Sirou? C'est-à-dire qu'on reconstitue ce qui manque, c'est ça?
On reconstitue ce qui manque, et puis surtout, on a des outils extraordinaires aujourd'hui. Ce qu'on apprend, entre autres en vous lisant, c'est qu'il n'y a pas eu un homme, il y a eu des hommes, plusieurs espèces d'hommes. Et nous sommes des survivants. Ce n'est pas une branche, c'est un buisson. Et ce qui est extraordinaire, ce que vous dites, c'est qu'il y a du néandertal en nous. On dirait presque une chanson de Johnny. Quelques pourcents. Mais si on se met à plusieurs et qu'on prend ces morceaux, c'est pas les mêmes. Et quand on reconstitue l'ensemble, eh bien dans l'être humain aujourd'hui, il y a 20% de néandertal. Pas 3%, mais 20%. Et ça, c'est extraordinaire parce que on va chercher en chacun de nous, finalement, cette petite part de néandertal pour reconstituer l'homme qui petit à petit se dessine. On en trouve des morceaux, on trouve des os, on trouve des restes de génome en quelque sorte. Et on se rend compte que cet homme n'était pas une brute. Cet homme avait un langage. Cet homme, sans doute, peut-être peignait, faisait de la musique, parlait, etc. Et cette image de Néandertal très classique, dans les livres d'histoire d'autrefois, est en train de disparaître, de se gommer pour lui donner quelque chose qui est... Il aurait lui aussi pu survivre, mais c'est nous qui sommes passés les premiers.
L'histoire au sens propre, c'est une enquête. C'est historia en grec, ça veut dire l'enquête, justement, la recherche, l'enquête. Et ce qui est très intéressant, lorsqu'on s'intéresse à ces sujets parascientifiques, d'une certaine manière, c'est que à mesure que les instruments d'observation et d'analyse progressent, cette enquête se développe. Donc, on est là en présence d'une histoire qui change constamment, qui se précise, qui se révolutionne elle-même. Ça, je trouve que c'est très passionnant. Et puis, la deuxième chose qui, moi, m'a frappé dans votre ouvrage, c'est l'importance de l'observation. Ça, c'est fondamental. Je crois, là, on est très proche de la démarche scientifique, d'ailleurs.
On est très proche de la démarche scientifique, avec justement ce bémol obligatoire qui est que il y a ce que l'on voit, et il y a ce qui est. Je vous donne un exemple très simple. Vous vous levez ce matin, vous voyez le soleil se lever à l'est et se coucher à l'ouest. Vous vous dites, alors, le soleil tourne autour de la Terre? Ben non, parce que nous savons, grâce à Copernic, à Galilée, etc., que finalement, c'est la Terre qui tourne autour du soleil. Mais il y a l'observation et l'interprétation. Donc l'observation, même si elle est juste, ne suffit pas. Elle doit être mise dans un contexte, dans une théorie et dans une vision du monde.
Alors, il y a une momie qu'on n'étudiera pas, puisqu'on n'a pas le droit du tout d'ouvrir son tombeau, n'est-ce pas? Je suis bien placé pour le savoir. C'est la momie de Napoléon. Alors, en l'absence d'éléments, en l'absence de corps, si je puis dire, comment peuvent travailler les scientifiques, Nicolas Coq? Comment font-ils?
Ils utilisent surtout les rapports d'autopsie qui ont été publiés juste après la mort de
Donc
Napoléon.
Là, on entre dans l'histoire pure.
Oui,
si
là,
je
c'est vraiment, oui, c'est à partir des sources historiques où, notamment, c'est surtout des médecins qui ont travaillé sur cette question de savoir de quoi était finalement mort Napoléon. Donc là, c'est vraiment les sources historiques qui permettent d'essayer d'apporter une vision différente de la mort. Oui.
À propos de cette mort, qu'est-ce qu'on peut dire d'après vous? Est-ce qu'il a été empoisonné, oui ou non? Et s'il a été empoisonné, est-ce qu'il a été délibérément empoisonné? C'est ça la grande question.
Oui, on sait de sources sûres, enfin scientifiquement maintenant, on essaie de prouver qu'il y avait de l'arsenic dans ses cheveux.
Mm-hmm. Ça, c'est en très grande quantité.
En très grande quantité, oui, c'est assuré. Maintenant, qui dit arsenic, ne dit pas forcément empoisonnement
volontaire.
Ça peut être un empoisonnement environnemental. Donc, et on sait surtout qu'il, dans sa famille, certains membres de sa famille avaient aussi de l'arsenic dans leurs cheveux. Donc, ce qui tend à écarter de plus en plus la thèse de l'empoisonnement, puisque ou alors ça voudrait dire qu'on s'en est pris à toute sa famille, mais ça paraît tout à fait historiquement peu crédible en tout cas.
Grâce à l'analyse actuelle des, ça c'est, on avait vu ça avec le docteur Jacques de Blauve notamment, grâce à l'analyse du rapport d'autopsie, on peut dire maintenant de façon extrêmement précise de quoi il est mort. Ce qu'on ne sait pas, c'est ce qui a provoqué la maladie entraînant la mort, et c'est là que reste quand même, on peut le dire, un peu de mystère. Ne dites pas à l'historien que je suis et à l'amoureux d'énigmes historiques qu'il n'y a plus de mystère, parce
Non, il en reste encore beaucoup.
Un petit peu.
Oui, parce que certains pensent qu'il est mort d'un cancer, tout le monde n'est pas d'accord avec ça, parce qu'il y a une façon de lire les rapports d'autopsie, donc on sait que certains d'ailleurs ont été plagiés, donc qui n'ont pas de valeur historique. Donc notamment pour ceux qui pensent que c'est un cancer se basent là-dessus. Et donc historiquement, ça pose aussi des problèmes. Oui.
À propos de Napoléon, je tiens à signaler qu'il va y avoir une vente. Alors tous ceux qui sont passionnés par l'Empire vont être là. Ça, je peux vous dire que c'est sans doute la vente napoléonienne du siècle, puisque c'est carrément la collection napoléonienne du palais princier de Monaco que le prince souverain actuel, Albert II, a décidé de mettre en vente. Et donc ça va avoir lieu là, samedi 15 et dimanche 16 novembre prochain, à Fontainebleau, chez Maître Zena, une immense vente donc d'objets et de souvenirs historiques absolument extraordinaires. On a hâte de savoir les prix que vont faire un certain nombre des objets qui seront vendus à Fontainebleau ce week-end. Merci beaucoup. Il y aurait eu encore bien des questions à se poser, mais je renvoie tout simplement nos auditeurs à votre ouvrage « La science au secours de l'histoire ». 5 énigmes résolues par Nicolas Coq. C'est aux éditions Pygmalion. Et puis, pour ce qui est d'Alain Sirou, je le renvoie à sa comète et à son engin exploratoire. On n'a pas fini d'en parler, j'ai l'impression. Hein.
On est en plein dedans et ça marche.
Dans un instant sur Europe 1, vous répondrez Franck Ferrand à la question de Nicolas sur l'origine des couronnes que portent les souverains.
Europe 1, au cœur de l'histoire. Retour aux origines.
Et vous répondez cet après-midi, Franck Ferrand, à la question de Nicolas. Il nous l'a envoyé via la page Facebook de l'émission. Il aimerait savoir pourquoi les souverains portent des couronnes.
Vous avez remarqué que c'est la journée des Nicolas dans cette émission.
Vrai.
Alors, les couronnes, c'est quasiment aussi vieux que l'humanité. Et pour ce qui est de l'Antiquité, notre Antiquité classique, rappelez-vous bien sûr de toutes ces belles couronnes qu'on faisait en vigne, en feuilles de vigne, en fleurs, en fruits, en laurier, bien entendu, la couronne de laurier qu'on donnait aux guerriers victorieux dans l'Antiquité, bien entendu, aux athlètes, ne l'oublions pas, avec ces belles couronnes d'or dont on coiffait les athlètes vainqueurs. Et puis, peu à peu, ce sont les souverains qui vont prendre cet attribut divin. La plupart des auteurs conviennent que la couronne était dans son origine plutôt un ornement du sacerdoce que de la royauté, nous dit François-Joseph Michel Noël en 1827. Vous savez, à cette époque où il y a tant d'érudits au début du 19e siècle qui s'intéressent aux origines justement de tous ces attributs et de toutes ces solennités, les souverains, ajoutent-ils, la prirent par la suite, parce qu'alors ces deux dignités du sacerdoce et de l'empire étaient réunies. Alors, en France, vous voyez que les rois de France portaient au départ la couronne ouverte. C'était l'héritage direct de la couronne antique, mais sur laquelle on avait installé les fleurs de lys, bien entendu, qui ont été de plus en plus stylisées, ce qui a finalement donné à cette couronne cet aspect stylisé qu'on connaît et qu'on utilise nous aujourd'hui au moment de la fête des rois, bien entendu. Vous savez, les petites couronnes en papier qu'on a avec les galettes. Bon. Et petit à petit, on va aller vers la couronne fermée. Ça, ce sont les empereurs, les empereurs du Saint-Empire, qui vont inventer cette couronne dont tous les arcs se rejoignent au sommet. Mais ça n'était pas une couronne française du tout. Et comme par hasard, c'est François Ier qui, jaloux de l'empereur Charles Quint, voulait montrer qu'il était lui-même empereur en son royaume, c'est François Ier qui va faire adopter pour les rois de France la couronne fermée, au départ couronne impériale. Alors je sais que certains se disent ça y est, il va en profiter pour dire du mal de François Ier, eh bien même pas.